Voilà, lui. Alors. Voilà, bonjour à tous. Nous allons ce matin entrer dans le vif de notre sujet, c'est-à-dire sur les paraboles du royaume. Je rappelle très rapidement ce que nous avons vu hier, pour ceux qui éventuellement nous rejoindraient aujourd'hui. Nous avons vu que les paraboles sont des comparaisons, des exemples qui contiennent des mystères. Et des mystères qui sont relatifs au royaume de Dieu, c'est-à-dire aux choses dernières. Et ces mystères ne sont pas compréhensibles à la sagesse humaine. Il faut, pour pouvoir les comprendre, une révélation de l'Esprit de Dieu. Il faut un don de la sagesse de Dieu. Les paraboles, nous l'avons vu, appartiennent au genre de ce que l'on appelle dans le judaïsme la littérature de la sagesse, qui touche aussi justement cette question des choses dernières. Ce matin, nous allons étudier une des premières paraboles du royaume, je vais expliquer pourquoi on les appelle aussi des paraboles du royaume, et cette petite parabole est une parabole clé pour comprendre ce que Jésus veut nous enseigner quand il parle en parabole au sujet des mystères du royaume de Dieu. Cette lecture, nous la trouvons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, et à partir du verset 22, bien que la parabole elle-même ne comprenne que les versets 29 et 30, mais il est important de replacer la parabole dans son contexte pour pouvoir la comprendre. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet et le guérit, de sorte que le muet voyait parlait et voyait. Toute la foule hors d'elle-même disait « N'est-ce pas là le fils de David ?» Les pharisiens l'ayant appris dirent « Cet homme ne chasse pas les démons si ce n'est par Belzébul, le prince des démons. » Comme Jésus connaissait leur pensée, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Mais si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront même vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. La parabole de l'homme fort évoque un thème qui est essentiel dans les paraboles de Jésus. Le royaume.
Chapitre 12.
Ah oui, excusez-moi. Oui, chapitre 12. Donc ici, il s'agit du royaume qui subit de grandes violences de la part de ses ennemis. Je voudrais tout d'abord évoquer ce qu'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il en est question pour la première fois dans la Bible, dans le chapitre 15 du livre de l'Exode. Ce chapitre nous parle du cantique que les Israélites ont chanté après la traversée de la mer Rouge, après avoir été délivrés de leurs ennemis égyptiens. Et ce cantique, on l'appelle dans le judaïsme le cantique de la mer, parce qu'il a été chanté après la traversée de la mer Rouge. Et ce chapitre s'achève de la manière suivante. L'Éternel règnera d'éternité en éternité. Et dans la Bible tout entière, c'est la première fois qu'il est question du règne de Dieu. Le verset suivant nous explique pourquoi le Seigneur règnera d'éternité en éternité. Parce que, nous dit notre cantique, il a précipité dans la mer les chars et leurs cavaliers et il a noyé le pharaon. Et ce miracle extraordinaire est le signe, la manifestation indiscutable que l'Éternel règne, par conséquent de ce que l'on appelle le royaume de Dieu. La traversée de la mer Rouge est le dernier acte de la libération du peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Et avant que cette libération ait lieu, et que comme le dit ce cantique de la mer, le peuple d'Israël ait pu se mettre en marche vers la terre qui lui a été promise par Dieu, où il doit lui construire un sanctuaire, comme d'ailleurs le recommande le livre de l'Exode, le Seigneur a dû intervenir au moins à 10 reprises pour que le Pharaon accepte de libérer le peuple. Le peuple était en esclavage. Et à la suite de cette série de miracles, 10 plaies plus une, pourrions-nous dire, puisque d'une certaine manière, la traversée de la mer Rouge est une 11e plaie, alors la puissance de Dieu sur les puissances du Pharaon a été manifestée. L'Exode, et notamment cet épisode des différentes plaies, est le récit d'un combat entre le Pharaon, le règne du Pharaon et l'Éternel. Qui des deux va être le plus fort? C'est un véritable bras de fer entre ces deux rois, en quelque sorte. Et finalement, celui qui est obligé de baisser les bras, c'est le Pharaon. Et lorsque le Pharaon est vaincu, alors on sait que l'Éternel règne. Que c'est lui qui est le plus fort et que par conséquent, c'est lui qui règne. Non seulement les Égyptiens et les Israélites le savent, mais toutes les nations qui vont en entendre parler vont savoir que l'Éternel règne. Maintenant, derrière la puissance du Pharaon, il y a autre chose. Il y a les puissances des ténèbres. Et les puissances des ténèbres, dans la Bible, sont aussi représentées par la mer. Bien que je vienne d'un pays de marins, où on aime la mer, les Israélites n'étaient pas des marins. Ils n'aimaient pas la mer. La mer, pour eux, était un endroit dangereux. Et c'était même un endroit diabolique. La mer est une puissance de mort. Et elle est identifiée avec la mort. Dans le livre de l'Apocalypse, sur la nouvelle terre, il n'y aura plus de mer. Les Bretons ne sont pas très heureux de ça. Mais ça veut dire, dans le langage codé de l'Apocalypse, ça veut dire qu'il n'y aura plus de mort. La mer, c'est la mort. La mer, c'est l'abîme. La mer, c'est le Sheol, c'est l'enfer. Et la mer est notamment l'endroit où résident des puissances démoniaques, semblables à des bêtes effrayantes, des monstres marins. Et lorsqu'au commencement, Dieu crée le ciel et la terre, il avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire que toute la terre était remplie par la mer. Et pour que la vie puisse apparaître, en tout cas sur la terre, Dieu est obligé de séparer la mer avec le sec. Et c'est en réduisant cette mer à un endroit bien limité où elle est enfermée que Dieu va manifester également sa puissance. Et lorsque nous avons traversé, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, eh bien, il y a donc 4 réalités qui sont évoquées dans ce verset. Il y avait, la terre était tohu varohu, on dit en hébreu, ce qu'a donné en français tohu bohu. J'expliquerai cette expression dans un instant. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus d'eux. 4 réalités qui sont hostiles à la puissance de Dieu, c'est-à-dire à sa souveraineté, c'est-à-dire à son règne. Tohu varohu. Tohu, ça veut dire quelque chose qui est sens-dessous en hébreu. Vohu, ça veut dire quelque chose qui est vide. Rocher des ténèbres, Théom, l'abîme. quatre réalités, quatre monstres, disent les sages d'Israël, que le Seigneur a dû vaincre, quatre puissances des ténèbres, quatre puissances démoniaques, pour que Dieu puisse créer le monde. Et que la lumière, qui est la lumière du Messie, selon les sages, puisse briller dans les ténèbres. Or, lorsque nous lisons le livre de Daniel en particulier, que ce soit dans le chapitre 2, ou que ce soit dans le chapitre 7, il est question de quatre empires qui doivent se succéder sur la terre jusqu'à la fin. Quatre empires qui, notamment dans le chapitre 7 du livre du prophète Daniel, sont aussi représentés par des monstres, par des bêtes féroces. La première de ces bêtes est un lion, la deuxième de ces bêtes est un ours, la troisième un léopard, et la quatrième un animal fantastique qui n'a pas d'équivalent sur la terre et que par conséquent on ne peut pas nommer, et qui, des quatre bêtes, est le pire de tous. Et les commentateurs juifs du livre de la Genèse nous disent les quatre réalités, Tohu, Vohu, Choseh, Uteom, qui étaient au commencement et qui s'opposaient au règne de Dieu, sont les mêmes que les quatre empires de Daniel. Ces quatre empires, le prophète les identifie. Le premier empire, le lion, c'est Babylone. Le deuxième empire, l'ours, c'est la Perse. Le troisième empire, le léopard, ce sont les Grecs. Et enfin, le quatrième empire n'est pas nommé, mais nous savons, nous qui vivons bien après ces événements, que le quatrième empire, en réalité, c'était Rome. Et à l'époque de Jésus, on interprétait aussi ce quatrième empire comme s'agissant de l'empire romain. Et voilà, déjà au commencement, ces quatre empires. Ça veut dire que les puissances démoniaques qui vont s'incarner dans ces empires étaient déjà à l'œuvre, parce qu'elles étaient animées par l'adversaire. Le premier, Tohu, sans dessus, c'est Babylone. Babylone, Babel en hébreu, ça signifie justement ce qui est sans dessus. Ce qui est bouleversé. À Babel, Dieu bouleverse le langage des hommes. Donc ce qui est le bouleversement, ce qui est sans dessus, c'est l'œuvre de l'adversaire, toujours. Mettre le chaos. Partout où il le peut, il met le chaos. Deuxièmement, Vohu, vide. C'est la marque du deuxième empire, l'empire des Médo-Perses, tel que nous le trouvons notamment dans le livre d'Esther. C'est un empire qui semble extrêmement puissant, extrêmement riche en particulier. Vous savez comment le roi Assuérus, dans le livre d'Esther, avait essayé de montrer toute sa gloire par des festins auxquels tous les habitants de l'empire étaient invités. Mais en réalité, c'était un empire qui était vide. C'était comme une coquille vide. Extérieurement, il était beau, mais intérieurement, il était vide. Et l'histoire profane nous confirme cette réalité parce que lorsque, en 332 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand s'en est pris à cet empire, en une seule bataille, l'empire s'est effondré. Parce qu'il était vide de l'intérieur. Il était miné, il était rongé de l'intérieur. Tout était dans l'apparence. Et ça aussi, c'est une marque de Satan. Dans les temps de la fin, nous est-il dit, les hommes auront l'apparence de la piété, mais ils auront renié ce qui en fait la force. Troisième empire, Choseh, les ténèbres. Il y avait des ténèbres. Et les ténèbres représentent la Grèce. Et les commentateurs juifs ont dit quelque chose de très intéressant. Ils ont dit, dans les temps de la fin, la Grèce répandra dans le monde entier les ténèbres de ses soi-disant lumières. Et vous savez que nos civilisations sont extrêmement tributaires de la civilisation grecque, de la philosophie, des sciences, des arts, et de tout ce qui faisait la civilisation grecque. Et notamment, lorsque on a voulu, à partir de la fin du XVIIIe siècle, la Révolution française, une sœur a rappelé tout à l'heure que nous fêtons cet événement ce jour, Lors de ce temps, on a voulu fermer la parenthèse du judéo-christianisme et revenir aux lumières de la Grèce. Ça a été ce qu'on a appelé l'époque des Lumières. Et en fait, de lumière, cette période est une période de ténèbres. La Grèce répandra dans le monde entier les ténèbres de ses soi-disant lumières. Et enfin, il y a le quatrième empire, le pire de tous, Théom, l'abîme. L'abîme représente le quatrième empire, l'empire romain. Et cet empire, c'est un empire qui est un empire qui n'a aucune finalité. C'est un empire qui vit dans l'absurde, qui n'a ni commencement ni fin, qui n'a qu'un seul but, c'est sa force brute et notamment sa puissance technique. Et il va de l'abîme, et il retourne à l'abîme. Nous trouvons ça aussi dans le livre de l'Apocalypse de Jean. Et ça, nous disent les sages, ce sera la marque de ce qui sera au temps de la fin. Le monde de la fin sera un monde qui n'aura plus de sens, qui n'aura plus de finalité, qui ne sait pas d'où il vient et qui ne sait pas où il va, mais qui existe. Et simplement, son but, c'est de jouir de l'instant présent. Son but, c'est de manifester sa puissance, de se glorifier lui-même. Il s'adore lui-même. Et c'est en cela qu'il met le comble au péché, comme nous aurons l'occasion d'y revenir. Et lorsque ces empires règnent, le règne de Dieu n'est pas complet. Dieu règne, bien sûr, il est souverain. Mais son règne n'est pas total. Vous avez un autre texte intéressant qu'on trouve dans le livre de l'Exode, c'est lorsque Israël est attaqué par Amalek. Et vous vous souvenez, il y a une bataille au cours de laquelle Moïse lève les mains vers Dieu, et chaque fois qu'il a les mains levées, Israël est le plus fort. Quand il baisse les mains, au contraire, Amalek est le plus fort. Finalement, deux hommes viennent le soutenir, et finalement la victoire est remportée. Mais c'est une victoire temporaire. Et le texte dit ceci, « Parce que la main d'Amalek a été dressée contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre entre Israël, entre l'Éternel et Amalek de génération en génération. » C'est pourquoi tu te souviendras de ce qu'Amalek t'a fait tous les jours de ta vie. Et à chaque génération, tu effaceras la mémoire d'Amalek d'au-dessous des cieux. Quand vous lisez ce texte en hébreu, vous avez quelque chose de très intéressant. Le mot trône, qui se dit en hébreu, qui sait ? Dans le texte original, il y a une lettre qui manque, la lettre finale. Alors, vous ne lisez pas qui sait, vous lisez kiss. Et les sages nous disent, pourquoi il y a cette lettre qui manque ? Parce que ça montre qu'aussi longtemps que Amalek, les puissances des ténèbres, les puissances sataniques règnent, parce que finalement Amalek, c'est comme nos quatre bêtes de Daniel, c'est l'incarnation des puissances démoniaques. Aussi longtemps qu'Amalek n'est pas vaincu, aussi longtemps que la mémoire d'Amalek n'est pas disparue de dessous les cieux, retranchée de dessous les cieux, il manque quelque chose au trône de l'Éternel. Et ça veut dire le règne de l'Éternel n'est pas total. Il n'est pas complet, sa souveraineté n'est pas pleinement manifestée. Et les quatre bêtes, elles sont placées en prison par Dieu dans la mer. Cette mer que Dieu a limitée. Et vous avez des textes, par exemple, dans le chapitre 27 du livre d'Ésaïe. On va lire ce texte parce qu'il est intéressant. On va lire deux textes maintenant dans Ésaïe. Chapitre 27 tout d'abord, il est question du temps de la fin, verset 1er. En ce temps-là, l'Éternel châtiera de sa dure, grande et forte épée, Léviathan, serpent fuyard, Léviathan, serpent tortueux, il tuera le monstre qui est dans la mer. Donc ici, au temps de la fin, ces puissances des ténèbres seront anéanties. Et vous retrouvez la même chose dans le chapitre 51 d'Ésaïe, Verset 9, réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force, bras d'Éternel, réveille-toi comme au jour d'autrefois, au temps des générations passées. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte ? Ah, et nous retrouvons ici notre thème de l'Exode. L'Éternel règnera d'éternité en éternité. N'est-ce pas toi qui transperces le monde? N'est-ce pas toi qui mis la mer à sec, les eaux du grand abîme, allusion justement à la traversée de la mer Rouge, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Ça veut dire qu'en fendant la mer, en déchirant la mer, on appelle ça en hébreu, la mer Rouge a été déchirée. Et un passage a eu lieu dans cette mer. En déchirant la mer, Dieu a mis un terme à la puissance de l'Égypte assimilée à ce monstre, à ce serpent tortueux, à ce serpent fuyant, à ce Léviathan qui était dans la mer. Il a ainsi non seulement déchiré la mer, mais il a déchiré le monstre lui-même. Et il l'a vaincu. Et le peuple d'Israël a pu sortir libre. La déchirure de la mer, la réduction à l'impuissance des puissances démoniaques a été la condition de la libération du peuple d'Israël lors du premier exode. Et ce premier exode, il est fondamental dans l'histoire d'Israël. Il dit, tu te souviendras de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Et tous les jours, chaque juif bénit Dieu pour avoir libéré ses ancêtres de l'esclavage de l'Égypte. Ça, c'est la base même de la foi d'Israël. Dieu nous a libérés autrefois de l'esclavage de l'Égypte. Et s'il y a eu un premier exode, il y aura au temps de la fin un deuxième exode. Les miracles que Dieu a fait au commencement, il les refera à la fin. Et au temps de la fin, il y aura une deuxième libération qui sera la libération totale. Et la première libération est la condition de la première. Il y a eu un premier exode, il y aura un deuxième exode. Il y a eu un premier libérateur Moïse, il y aura un deuxième libérateur le Messie. Il y a eu un premier pharaon qui a été vaincu, il y aura un deuxième pharaon, l'Antichrist, qui sera vaincu au temps de la fin. Et lorsque il en sera ainsi, l'Éternel règnera d'éternité en éternité. Lorsque la mer a été déchirée, que le pharaon a été définitivement vaincu, ça a été le signe de la libération totale d'Israël et par conséquent du règne de Dieu. Lorsqu'au temps de la fin, les puissances des ténèbres seront définitivement vaincues, alors ce sera le signe que le Seigneur régnera définitivement et que le trône de l'Éternel qui était incomplet à cause de cette lettre qui manquait, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien sera cette fois-ci complet. L'Éternel régnera d'éternité en éternité. Pour l'heure, le Seigneur ne règne pas d'une manière totale sur la terre.
Que ton règne vienne.
Que ton règne vienne, c'est ce que j'allais dire, que ton royaume, c'est le mot en grec. Ça veut dire que le ciel est l'endroit où la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite, s'accomplit parfaitement. Donc, sur la terre, malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Car pour l'heure, Satan et les puissances qui l'accompagnent, les puissances des ténèbres, les puissances de ses empires notamment, dont nous avons parlé, eh bien, continuent à être les véritables maîtres des nations. Lorsque Jésus est tenté par le diable lui dit, tu te prosternes devant moi, je te donne tous ces royaumes de la terre qui m'ont été donnés, je les donne à qui je veux. Et Jésus ne conteste pas. Oui, c'est vrai. Satan est le prince de ce monde. Ces royaumes de la terre lui ont été donnés. Et maintenant j'en arrive à ma parabole. On a pris un long chemin pour y arriver, mais voyez-vous, c'est important. Satan, c'est l'homme fort dont il est question ici. L'homme fort qui... Et derrière toutes ces puissances d'asservissement, que ce soit le pharaon d'Égypte, que ce soit Nebuchadnezzar, roi de Babylone, que ce soit Assuérus de Perse, que ce soit Alexandre le Grand, que ce soit les empereurs romains élus jusqu'à l'Antichrist, c'est Satan qui est derrière ça. C'est Satan qui donne sa puissance à qui il le veut, à qui se prosterne devant lui, à qui accepte de le servir et de l'adorer. Et toutes les puissances politiques adorent Satan d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est un autre problème dans lequel je n'entrerai pas. Et le propre de Satan, c'est qu'il est un tyran. Il asservit les hommes. Il est comme ce maître de maison dont nous parle ici notre parabole. Ça veut dire quelqu'un qui a des prisonniers qu'il tient bien gardés. Comment Satan tient-il les hommes prisonniers? Par le péché. Et par toutes les conséquences du péché. La souffrance, la maladie, la mort, la possession démoniaque en particulier. Et il est tellement fort, tellement puissant, que jamais personne n'a réussi à le vaincre. On a bien essayé dans l'histoire. Et on essaie encore d'apporter aux hommes la liberté. On parlait le 14 juillet, c'est pas grave, liberté, liberté chérie. Eh oui. Plus on en parle, moins il y a de liberté, n'est-ce pas? On a pensé que par la Révolution, on allait donner aux hommes la liberté. Et puis on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Il est l'homme fort. Personne n'a jamais réussi à le dire. Et cette allusion à un homme fort, vous la trouvez dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 53, verset 12. On peut lire ce texte si vous voulez, parce qu'il est essentiel, chapitre 53, chapitre bien connu, qu'on a appelé l'Évangile selon Ésaïe. Verset 12, je vous ai dit ceci, chapitre 53, c'est justement. Après les tourments de son âme, verset 11, il rassasira ses regards. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin du puissant. On peut comprendre comme ça. Je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il possédera le butin du puissant. Et les sages d'Israël ont interprété ce texte en disant que le puissant, l'homme fort, si vous voulez, c'est exactement une traduction possible aussi de cette expression, eh bien, c'est Satan. C'est Satan qui tient les hommes captifs par sa puissance du péché en particulier. Et le serviteur de l'Éternel, eh bien, il payera, il distribuera le butin du puissant parce qu'il l'aura réduit à l'impuissance par son sacrifice. Et Jésus reprend ce terme. Personne n'a jamais réussi à vaincre ce puissant, cet homme fort. Mais s'il survient de quelqu'un de plus puissant que lui, et qui est le plus puissant que lui, c'est lui, Jésus. Et il va lier l'homme fort. Il va le réduire à l'impuissance comme autrefois Moïse, par la puissance de Dieu, a réduit à l'impuissance toute la puissance du Pharaon. Et de la même manière que quand le Pharaon a été réduit à l'impuissance, le peuple d'Israël est sorti libre. De la même manière, quand l'homme fort, le nouveau Pharaon, sera réduit à l'impuissance, tous les prisonniers de l'homme fort seront libérés. Et c'est ce que nous voyons dans le contexte de cette parabole, où Jésus guérit des démoniaques, un démoniaque. Et on l'accuse, par ses adversaires, de chasser Belzébul, le diable, par la puissance de Belzébul. Jésus dit, écoutez, réfléchissez 5 minutes. C'est stupide que vous dites là. Si Satan se chasse lui-même, il s'autodétruit. Vous voyez qu'il est assez stupide pour faire une chose pareille. Par conséquent, soyez logique. Si je chasse les démons, si je réduis à l'impuissance la puissance de Satan, ça ne peut être que par l'Esprit de Dieu. Nous avons un texte parallèle à celui-là dans l'Évangile de Luc. Et là, il y a une petite variante très intéressante. Là où Matthieu nous dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, dans Luc, vous avez ce qu'on appelle en exégèse une leçon. Vous avez ceci, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors c'est la preuve que l'Esprit de Dieu, que le royaume de Dieu vous a atteint. Le doigt de Dieu. L'Esprit de Dieu, mais le doigt de Dieu. C'est une allusion au récit de l'Exode. Dans le début de cette confrontation entre Pharaon et le Seigneur par l'intermédiaire de Moïse, il y a plusieurs plaies que les sages de l'Égypte lisent. Ça veut dire que Ils veulent montrer qu'au travers de ces miracles-là, il n'y a rien de surnaturel, c'est tout simplement des choses qui sont imitables. Jusqu'au moment où intervient la plaie des poux. Et à ce moment-là, les sages de l'Égypte disent « Cette fois-ci, c'est le doigt de Dieu. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. » Ça veut dire que ici, en chassant les démons, en accomplissant les miracles, Jésus refait les mêmes signes que ceux qui se sont produits dans le pays d'Égypte au moment du premier exode. Et les miracles que Moïse faisait en Égypte faisaient que la libération du peuple d'Israël approchait. C'était le signe. C'était les signes que la libération venait. Elle n'était pas encore complète, cette libération, mais elle était en marche. Et voyez-vous, ça c'est la chose importante. La délivrance est en marche. Elle n'est pas encore complète. Mais Jésus est là, et déjà, les signes de la présence du royaume sont manifestés dans le monde. Vous avez un autre texte, toujours dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, où Jean-Baptiste doute de la mission de Jésus. Il est en prison, et il envoie des messagers à Jésus dire « Est-ce que tu es celui qui doit venir, c'est-à-dire le Messie, ou bien est-ce que nous devons attendre un autre ?» Jésus ne répond pas à cette question. Il dit simplement, il fait quelques miracles, et il dit aux envoyés de Jean, « Allez raconter à Jean ce que vous avez vu. » Les aveugles voient, les sourds entendent, les boîtes marchent, les démoniaques sont délivrés, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est tout. Ça veut dire que chaque fois que par la puissance de Dieu, par l'Esprit de Dieu, ou par le droit de Dieu, un miracle a lieu, une guérison, la délivrance d'un démoniaque, ou tout simplement la conversion d'un pécheur qui passe des ténèbres à la lumière, du péché à la repentance, le royaume de Dieu est en marche. La délivrance est en marche. Le royaume de Dieu vous a atteint, il est là, déjà. Bien sûr, on n'en voit pas encore tous les effets. De la même manière qu'au moment de la plaie des poux, les Israélites étaient encore esclaves, mais ils savaient que leur délivrance était en marche. Et c'est ça que Jésus. L'homme fort, il est déjà réduit à l'impuissance. Et déjà, ses victimes sont libérées, les malades sont guéris, les lépreux sont purifiés, les victimes de Satan, les possédés sont libérés, et les pécheurs sont pardonnés. C'est la preuve que le royaume de Dieu a fait irruption au milieu de vous. Il est déjà là, même si il n'a pas encore atteint sa plénitude, sa totalité, parce que Satan règne encore. Mais voyez-vous, déjà, il y a les signes de la présence du royaume de Dieu. Et quand Jésus envoie ses disciples avec cette puissance, et qu'il revient en disant, « Mais Seigneur, c'est merveilleux, les démons même nous sont chassés. » Jésus dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme dans un éclair. » Voyez-vous, par le ministère de Jésus, par le ministère des apôtres, eh bien, le trône de Satan est ébranlé un peu plus. Satan est en train de tomber dans un éclair. Il est déjà en... Sa chute est déjà en cours. Et le trône de Dieu est de plus en plus affermi. La lettre qui manque au trône de Dieu est en train de se mettre en place. Un dernier point, avant de conclure. Jésus, quand les envoyés de Jean sont repartis, lui dit à la foule, « Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? » Non, vous êtes allé voir plus qu'un prophète. Et ce Jean-Baptiste, il a un ministère particulier. Il a un ministère unique, plus que n'importe quel prophète, parce qu'il a un ministère qui est directement en relation avec la venue du royaume. Et Jésus ici cite un texte qu'on trouve dans le chapitre 2 du prophète Michée, qu'on va lire aussi si vous voulez maintenant. Michée 2. Verset 12. Assurément, je te rassemblerai tout entier au Jacob. Assurément, je te regrouperai, reste d'Israël. Je le réunirai comme la brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura un bruit surhumain. Celui qui fait la brèche monte devant eux. Ils font la brèche, passent la porte et en sortent. Le roi passe devant eux et l'Éternel est à leur tête. celui qui fait la brèche. Celui qui fait une brèche dans le royaume de Dieu, c'est Jean-Baptiste. Et voyez-vous, ici, Jésus prend un exemple qui est magnifique. Il y a une sorte de muraille entre ce qu'on appelle en hébreu ce monde-ci, le monde qui est sous la domination de Satan, et l'Olam Haba, le monde qui vient servir le royaume de Dieu. Il y a un barrage infranchissable. Ce barrage qui empêche justement que l'on pille les biens de l'homme fort. L'homme fort, il a mis un barrage autour de son royaume. Un barrage infranchissable. Et puis vient Jean-Baptiste. Il fait une brèche dans ce barrage-là. Vous savez, ce qui se passe dans un barrage hydroélectrique, c'est une brèche comme ça. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, vous avez un mince filet d'eau qui suinte, insignifiant. Et on peut ne pas y prendre garde. Mais on ne se rend pas compte que si on n'intervient pas pour colmater cette brèche tout de suite, eh bien, cette brèche va s'accentuer. Elle va miner les fondements du barrage, et un beau jour, le barrage, sans qu'on s'y attende, est emporté comme un fétu de paille, et le torrent inonde tout sur son passage. Eh bien, c'est un petit peu l'image ici que prend Jésus. Le royaume de Dieu, eh bien, c'est comme ce torrent qui a été retenu par ce barrage qui a été créé par l'adversaire. Mais Jean-Baptiste est venu, il a fait une brèche. Il a fait une brèche dans ce barrage. Et cette brèche, elle va aller en s'accentuant d'une manière irréversible, sans dans le fait de voir demain, dans la parabole du semeur, par exemple. Et on aura beau faire, cette brèche est irréparable. Alors, pour le moment, ce n'est qu'un mince filet d'eau. Il y a quelques malades qui sont guéris. Il y a quelques morts qui sont ressuscités, c'est pas tous. Il y a encore la puissance de Satan qui se manifeste. Mais déjà son trône chancelle, exactement comme ce barrage est déjà en train de chanceler. Et un jour que Jésus ne date pas, eh bien, ce barrage, il sera emporté par la puissance du royaume de Dieu, et il inondera tout le royaume de Satan, et il remplacera le royaume de Satan. Ce sera le cinquième empire, le règne du Fils de l'homme, de Daniel, dont il est question dans le chapitre 7. Jean-Baptiste a fait la brèche. Et le Messie, il n'est pas entré dans le royaume, lui, par contre. Mais le Messie, le roi, dont il est question dans le chapitre 2 de Michée, lui, il a profité de cette brèche qui a été faite par Jean-Baptiste pour entrer dans le royaume. Pas facilement. Il a divisé de violence. Et cette violence, il va en mourir, même. Mais cette violence, elle lui permet déjà de distribuer à toutes les victimes de Satan les bienfaits du royaume de Dieu. Ça, c'est le signe du royaume. C'est par le droit de Dieu que j'agis. Et un jour, eh bien, le royaume de Dieu sera complet. Bien sûr, Satan est bien conscient de ce qui se passe. Dès le début de son ministère, Jésus envahit son royaume, le désert. Le désert, c'est comme la mer, c'est l'habitation des démons. Et Jésus, rempli du Saint-Esprit, envahit le royaume de Satan, le désert. Il le provoque au cœur même de son habitation, le désert. Et il le vainc. Il en triomphe au moment des tentations. Et il revient rempli de la puissance du Saint-Esprit pour libérer ses victimes. Mais Satan ne se laisse pas faire. Et voyez-vous, il y a un texte très difficile à traduire, c'est cette question du royaume qui subit des violences. Ce sont les violents qui s'en emparent. C'est comme ça qu'on traduit, c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est le royaume de Dieu qui subit de grandes violences, et surtout évident dans la version que nous en donne Luc. Le royaume subit des violences. Ça veut dire que Satan est bien conscient que déjà son royaume est envahi par la puissance du royaume de Dieu. Alors il va réagir. Il va mobiliser toutes ses forces contre les fils du royaume. Et c'est un des grands enseignements de Jésus dans toutes les paraboles. Il faut que ses disciples s'attendent à des persécutions, à des difficultés, à des attaques de Satan, parce que Satan ne va pas se laisser faire. Il ne faut pas croire qu'il va se laisser envahir son royaume comme ça. Par conséquent, ne soyez pas surpris des tribulations qui vont vous attendre. Ne soyez pas surpris des tribulations que moi-même, le Messie, je vais subir. Parce que justement, le royaume de Dieu subit de graves violences. Parce que Satan est conscient qu'il joue son va-tout sur cette affaire. Alors, voyez-vous, ici, c'est une parabole essentielle, cette parabole de l'œuf fort. Et Jésus montre que, face à cette venue du royaume, chacun doit se déterminer. Et lorsque Jésus a parlé ainsi et qu'il dit, il donne une autre parabole, cette génération, c'est comme des enfants qui, on a joué de la flûte, ils n'ont pas dansé, etc. Et il se met à faire des reproches aux villes dans lesquelles il a fait la plupart de ses miracles. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras baissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles avaient été faits au milieu de toi, l'avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, elles se seraient retenties. Voyez-vous, face au signe du royaume de Dieu, chaque être humain doit se déterminer pour ou contre le royaume. Il faut entrer dans cette confrontation. Ou bien on prend le parti, comme le dit Jésus, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, mais celui qui n'est pas avec moi disperse. Par conséquent, il n'y a pas de neutralité possible en face de cette invasion du royaume de Dieu dans le monde. Ou bien tu deviens fils du royaume et tu auras part au banquet eschatologique. Ou bien tu es neutre, tu veux rester neutre, tu ne peux pas être neutre. Et en étant neutre, tu prends le parti de Satan. Tu disperses. Tu n'es pas avec le Seigneur, tu disperses. Et comme ces villes qui ne sont pas repenties, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Les habitants de Ninive se laisseront au jour du jugement contre cette génération parce que se sont repentis à la prédication de Jonas qui n'a fait aucun miracle. La reine de Séba se lèvera et jugera cette génération parce qu'elle est venue depuis les extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon et ainsi plus que Salomon. Chacun doit se déterminer en face de cette venue du royaume. Il y a une urgence parce que le royaume de Dieu est proche. Malchut Adonai pour être certain en hébreu, le royaume de Dieu envahit les royaumes de ce monde. Et par conséquent, ou bien on est fils du royaume, ou bien on est fils des ténèbres, et au dernier jour, au jour du festin eschatologique, on sera jeté dans les ténèbres du dehors. Quel choix tu fais? Il est encore temps de faire ce choix aujourd'hui, et ce choix, il est décisif. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir envoyé Jésus, le second Moïse, le nouveau libérateur, l'homme plus fort qui a livré, qui a lié le puissant, et qui a fait, Seigneur, que, alors que nous étions captifs, de cet homme puissant, de cet homme fort, tu nous as libérés par le sang de la croix. Parce que toi, tu as subi cette violence de l'ennemi qui a essayé de t'arrêter et qui n'a pas pu, parce que tu étais plus fort. Et toi, Seigneur, tu as réduit l'homme fort à l'impuissance. Et nous te remercions, Seigneur, de ce que tu as ouvert une brèche devant nous, une brèche pour notre libération. Et tu sais, Seigneur, aujourd'hui, ceux qui au milieu de nous sont encore captifs de l'adversaire d'une manière ou d'une autre, captif du péché peut-être, de la maladie, de la souffrance, de quelques problèmes, Seigneur. Et toi, tu nous dis comme tu l'avais fait pour le peuple d'Israël, tu nous redis cela chaque fois que nous venons à toi, je suis l'Éternel qui te libère de toutes tes Égyptes, de tous tes esclavages. Seigneur, montre-nous cette brèche ouverte, de telle manière, Seigneur, que nous puissions nous lever de nos prisons, secouer nos chaînes et ce matin sortir comme des hommes libres en nous faisant violence à nous-mêmes pour passer au travers de cette brèche étroite, de cette brèche, Seigneur, dans laquelle tu nous as précédés. Le roi passera devant eux et les brebis suivront. Aide-nous, Seigneur, à connaître ce chemin de la liberté et de réaliser que notre délivrance complète est en marche parce que l'Éternel régnera par son Messie d'éternité en éternité.